Jean, chapitre 3. Tournez avec moi. Ça va être un message Bible en main. Si vous avez votre Bible, ça va être super parce que je ne ferai pas afficher les versets de Jean. Par contre, quand on va aller dans les autres versets de la Bible, là, je vais les afficher à l'écran. Okay? Seigneur, merci pour le partage de Gilles, Seigneur Dieu, qui témoigne encore que les chrétiens sont comme des poches de thé, Seigneur Dieu. C'est en les mettant dans l'eau chaude qu'on tire le meilleur d'eux. Et parce que tu as fait habiter Jésus-Christ en nous, Seigneur. Eh bien, ce n'est pas les épreuves qui vont nuire à cette transformation que tu as commencé à faire en nous quand on t'a reçu, Seigneur. Il l'a bien dit, Gilles, on ne cherche pas les épreuves, on ne cherche pas les difficultés, Seigneur Dieu, mais quand on regarde en arrière, c'est ce qui nous a enracinés, c'est ce qui nous a établis et fondés. C'est qu'on s'est enraciné dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans sa fidélité. Puis on est devenu un peu comme toi, Seigneur. Tu dis dans Ésaïe 50 que tu n'as pas détourné ton regard au crachat, ni ton visage à ceux qui t'arrachaient la barbe, mais tu t'es fait un front de diamant pour faire face à tes adversaires. Tu es allé jusqu'au tribunal. Tu n'as pas fui dans le jardin de Gethsémani. Puis, tu t'es soumis au Père en toutes choses. Et je te prie que dans nos vies, Seigneur Dieu, on ait aussi cette soumission-là et cette docilité-là de marcher avec toi en toutes circonstances. Seigneur, dans ce passage, on va étudier la nouvelle naissance. Puis je te prie que ton Saint-Esprit m'aide à livrer ce message au nom de Jésus. Amen. Dans mon dernier message sur l'évangile de Jean, Jésus fait du ménage dans sa maison, on s'en rappelle, il renverse des tables, chasse des vendeurs, dit aux vendeurs de pigeons de me sortir ça d'ici. Puis il disait que sa maison devrait être une maison de prière pour les nations, puis pas une caverne de voleurs, pas une place pour venir se cacher puis faire un crime au nom des choses de Dieu, tu sais. Puis là, le passage qu'on va lire aujourd'hui sert de transition. Fait souvent, on lit les chapitres, puis là, vous êtes rendu au chapitre 3, puis vous dites, ah, ça, c'est une nouvelle section dans l'évangile de Jean. La section ne commence pas au chapitre 3, elle commence au verset 23 du chapitre 2. Donc, après qu'il est sorti du temple, il a commencé à faire d'autres signes et d'autres miracles là, dans la région de Jérusalem. Puis on lit, on va juste lire les versets 23 à 25. Et comme il était à Jérusalem, à la Pâque, pendant la fête, plusieurs crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait. Le mot signe pourrait être mis plutôt que miracle ici. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait tous les hommes et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un lui rendît témoignage de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Le titre de mon message, un croyant non-croyant. Donc, il y avait des croyants là. Est-ce que c'était des croyants? Est-ce que c'était vraiment des croyants comme que Dieu veut produire ou c'était des croyants de surface? Ben, ça va être ça le titre de mon message. Puis on va voir que Nicodème, c'est un top, tu sais. Puis c'est un croyant, non-croyant, entre guillemets. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Puis il y a vraiment un lien à faire là entre ces gens-là qui voyaient Jésus faire des miracles, puis Nicodème qui vient de nuit pour visiter Jésus. Donc, on peut dire que Jésus ici, il ne truste pas les gens qui ont cru en lui. Puis il n'y a pas besoin qu'on lui dise, hey, tu sais, cette personne-là, fais attention à cette personne-là. Tu sais, c'est bien beau qu'elle dise je crois, là, mais fais attention à cette personne-là. Il n'y a pas besoin. Pourquoi? Bien, parce que déjà, on est rendu au chapitre 3 dans l'évangile de Jean, puis Jean l'a présenté Jésus comme Dieu fait homme, donc Dieu omniscient, Dieu tout connaissant. Dieu sait tout, Dieu connaît toutes les pensées des hommes. Et au chapitre 2, il fait des miracles de création, il transforme de l'eau en vin. Fait qu'on a affaire à Dieu qui connaît qu'est-ce que dans l'homme. Puis même s'ils disent je crois, ben, il est trop pas. Et on va voir ça, un scénario qui se passe dans l'évangile de Jean. Jésus, c'est l'auteur des hommes. Fait que, tu sais, moi, mettons, ma soeur, ma fille s'en va travailler dans une autre région. Puis on lui a dit, là, tu vas là-bas, tu ne trosses pas personne. Là, tu sais, puis là, il va y avoir des clans, tu vas voir. Puis là, tu sais, les gens l'appellent pour lui dire, tu sais, je connais quelqu'un qui était là-bas. Tu sais. Mais Jésus n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage de rien par rapport à ce qu'il y a dans l'homme. Le passage de 2.23 à 2.25 qu'on vient de lire, c'est une transition entre les hommes croient en Jésus parce qu'ils ont vu les miracles qu'il fait, à Nicodème qui vient de nuit. Puis, dans le fond, Nicodème, on lit au verset 1, il y avait un homme d'entre les pharisiens. Donc, il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Verset suivant, il y eut un homme. Donc, il y a vraiment un lien entre Jésus connaît ce qu'il y a dans les hommes. Puis même s'ils ont cru, il ne faut pas être trusté nécessairement. Il y avait un homme, donc Jean continue, il y avait un homme d'entre les pharisiens. Et cet homme-là lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Parmi ceux qui ont cru que Jésus était un homme envoyé par Dieu, il y avait bien sûr Nicodème. Puis là, il y a un dialogue qui va commencer, puis on va s'apercevoir que Nicodème n'a pas ce que Jésus veut lui offrir. Au début du passage, au début de la discussion, au verset 2, il va dire 24 mots. Au verset 4, il va dire 18 mots. Au verset 9, il va dire 4 mots, puis après ça, il va se taire. Il va arriver comme la personne qui connaît. Il va passer de maître à élève. Puis Jésus ne tardera pas pour lui dire qu'il est un docteur en Israël, puis il ne connaît pas ces choses-là. Il va vraiment l'amener à nous faire réaliser que souvent le problème de l'homme, là, c'est. Puis en passant, je vais vous poser la question aussi au Québec, pourquoi est-ce que l'histoire de Nicodème, dans notre contexte culturel, comment est-ce que l'histoire de Nicodème est pertinente pour un Québécois qui a grandi au Québec, de langue francophone, par exemple? Donc, je vais parler du problème un petit peu qu'il y a dans ce passage-là. Du verset 1 au verset 15 de Jean chapitre 3, c'est Jésus qui parle avec Nicodème, mais à partir du verset 16, c'est Jean qui embarque puis il parle de la croix au passé. Il va dire que Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il va comme faire un. Tu sais, lui, il écrit en l'an 100, puis là, ça se passe dans les années 30. Jean revient sur ce que Jésus a dit. Puis il parle de la croix. Fait que là, on voit qu'il y a un transfert. Là. Puis là, c'est Jean qui se sert de l'histoire qui s'est passée avec Nicodème pour nous parler de la vie éternelle. Puis il continue, Jean, il continue à nous enseigner sur la vie éternelle. Il y a vraiment une démarcation dans le chapitre 2. On voit que quand Jésus renverse les tables du temple, les Juifs, eux autres, dirigeants, sont plus. Qui c'est qui me dit que tu as le droit de faire ça? Prouve-nous que tu as le droit de faire ça. Fait que les leaders juifs sont plus à fais-nous des preuves, tandis que la populace, c'est, ils ont vu des signes que Jésus faisait. Puis un des signes que Jésus faisait, c'est tu déménages dans sa maison. C'est un signe. Un signe, ce n'est pas nécessairement un miracle. C'est quelque chose qui démontre que tu es celui qui est envoyé par Dieu. Puis la populace, ben, ils ont vu probablement plein de miracles se faire autour de Jérusalem. Puis donc, il y a plusieurs personnes qui mettent leur foi en Jésus. Le type de foi est intéressant. C'est écrit, plusieurs crurent en son nom. Puis ça, ce n'est pas la première fois que Jean en parle. Il l'a dit au chapitre 1, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Fait que le lecteur, il se dit, est-ce qu'ils sont devenus enfants de Dieu? Parce que ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ces gens-là ont vu les miracles qu'il a faits, puis ont cru en son nom. Alors, est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Et là, c'est intéressant parce que, dans le fond, on pourrait être tenté de croire que oui, ils ont cru au Seigneur Jésus, puis ils sont des enfants de Dieu. Mais Jésus, Jean il dit, Jésus, il ne les trosse pas. Fait qu'il faut essayer de voir dans l'Évangile de Jean, il y a plein d'autres places dans l'Évangile de Jean que les gens croient, mais ils ne croient pas. C'est des croyants, non-croyants. Okay? Et donc, on va en regarder un passage ensemble. Même parmi ceux qui le suivent pendant 3 ans et demi, il y en a un que dans chapitre 6, verset 71, il est appelé un démon, Judas, qui va le trahir pour 30 pièces d'argent. Et semble-t-il, quand il y a des miracles qui sont faits, ce n'est pas ça qui suscite le plus de foi. Ça suscite l'étonnement, mais pas nécessairement le Ah, ben, si il a fait ça, il doit être celui qui dit qu'il est. Donc, on va écouter les paroles qu'il dit. Et ça ne suit pas naturellement. OK? Jean 6, il va dire, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. T'sais, vous avez vu des signes miraculeux, vous me suivez. T'sais. Même ses frères, ils croyaient qu'ils étaient capables de faire des miracles. Il disait au chapitre 7, je pense que ça, je vais le faire apparaître. Je ne pense pas que je l'ai mis, mais c'est en 7:35 qu'il dit, les frères lui disent, pars d'ici, va-t'en en Judée, afin que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Hey, on les voit, nous autres, là. On est tes frères, là. Jacques en fait partie, puis les autres, ils ont au moins 4 frères, 2 sœurs. Et personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc, tu peux croire que Jésus il est comme un personnage envoyé par Dieu qui fait des miracles et pourtant ne pas avoir la foi qui donne la vie éternelle. Puis, dans Jacques, le frère du Seigneur, il était parmi ceux qui ne croyaient pas en lui, là, qui ont dit, hey, va faire tes miracles pour que le monde croie en toi. Tu sais. Ben, il dit au chapitre 2, verset 19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons croient aussi et ils tremblent. Les démons croient que Dieu existe, croient qu'il y a le pouvoir des envoyés en enfer, et ça ne fait pas d'eux pourtant des personnes sauvées. Donc, quelqu'un a déjà dit, si tu crois que Dieu existe puis qu'il est tout-puissant, tu es juste en compagnie des démons. Dans le sens où ce n'est pas ça qui nous donne la vie éternelle, ce n'est pas ça qui nous sauve, si on peut dire le mot sauver, puis comprendre qu'est-ce que ça veut dire, là, d'avoir la vie éternelle. Dieu cherche à ce qu'une personne entre en relation avec le Créateur, qui croit qu'il est, puis dit, hey, t'es pas seulement Dieu, tu es mon Dieu. Un peu comme Thomas qui a dit à la fin, quand il a mis les doigts là, dans les trous de ses mains, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Un passage dans 8:31, il va dire ceci. Écoutez bien ça. C'est un pattern qu'on trouve souvent dans l'Évangile de Jean. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, j'attire votre attention. Ils ont cru en lui. OK? Premièrement, qu'est-ce qu'on voit? Il leur donne une indication. OK, vous avez cru, maintenant, devenez des disciples. C'est-à-dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui va s'approcher de la parole de Dieu, qui va apprendre à marcher avec Dieu comme maître et seigneur sur sa vie. Okay? Donc, il dit plus tard, quelques versets après, c'est les mêmes personnes. Vous le lirez comme il faut à la maison si vous voulez. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Donc, ils ont cru en lui, qu'il a fait toutes sortes de miracles, puis qu'il est envoyé par Dieu, mais ils ne veulent pas l'obéir ou recevoir sa parole pour qu'elle prenne racine dans leur cœur, puis que la parole vienne juger, puis dire, hey, c'est méchant ce que vous faites. Fait qu'ils ne veulent pas l'avoir comme Dieu sur leur vie. Puis là, ils ont cru en lui. Juste vous rappeler qu'ils ont cru en lui au verset 31. Il leur dit, ma parole ne pénètre pas en vous au verset 37. Puis au verset 44, leur papa, ce n'est pas Dieu. Il leur dit, vous avez pour père le diable parce que vous voulez faire accomplir les désirs de votre père. Il a été le meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc, au début, une indication, vous avez cru, OK, soyez mes disciples. La parole ne pénètre pas en vous. Alors, il leur donne quoi? Un avertissement? Vous cherchez à me faire mourir, puis en fait, vous n'êtes pas comme votre papa dans le ciel, vous êtes comme le père du mensonge, parce que vous avez des mauvais sentiments en vous. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? Il y a des gens qui croient, sont impressionnés par des signes ou des miracles. Une fois que le signe, un signe, on a dit que dans l'Évangile de Jean, un signe, c'était quelque chose qui accompagnait un messager qui était envoyé par Dieu pour certifier que c'était Dieu qui l'avait envoyé, mais normalement, c'était pour signifier cette personne-là. Donc, c'était pour écouter son message. Alors, eux autres croyaient qu'il était envoyé par Dieu, mais pour ce qui est du message, on ne repasse pas. La parole ne pénétrait pas en eux. C'est pour ça que quand Jésus donne des paraboles du royaume concernant la période de l'Église, il parle de semences qui trouvent un sol peu profond, un sol, tu sais, différents sols, puis qu'il y a une semence qui ne porte pas de fruits, qui viennent à maturité. C'est que les gens ont cru soit parce que Dieu a fait un miracle dans leur vie ou quelque chose, ils ont vraiment, ils veulent être secourus de quelque chose, mais ils ne veulent pas nécessairement l'avoir comme Dieu. Et le changement de cœur n'est pas au rendez-vous dans ce cas-là ici. Le changement de cœur n'a pas eu lieu. Fait que c'est comme s'il leur disait, vous êtes des croyants, non-croyants. Il y a besoin d'avoir encore quelque chose. Et Nicodème, c'est cette personne-là. Donc, les gens peuvent suivre Jésus pour ses miracles sans placer leur confiance dans sa parole et vraiment croire pour la vie éternelle. Dans Jean, c'est là que j'ai pensé au verset de Jean 5, 24 qui dit, celui qui croit qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc, ce n'est pas juste de croire qu'est-ce qui est envoyé, mais c'est de croire aussi son message. Donc, des croyants, non-croyants, des gens qui peuvent être dans des églises depuis des siècles, des années, je veux dire, des décennies, et aller à l'église, pratiquer la religion, protestante, évangélique ou n'importe laquelle, avoir une certaine croyance, mais ne pas avoir la vie éternelle. Nicodème, aujourd'hui, c'est une personne qui est très avancée dans le judaïsme. Lui, il devrait, tu sais, moi, je suis informaticien. Mais si je serais professeur informaticien, ça serait pire. Si j'arriverais en entrevue, puis qu'il y a une façon dans un site web que tu peux rentrer dans un formulaire, puis tu peux aller rentrer dans la base de données juste par le champ nom ou le champ email. On appelle ça de l'injection. Okay? Fait qu'on peut aller trafiquer comme ça, puis rentrer dans un site web si ça n'a pas été bien programmé de l'autre côté. Bon, si je passe une entrevue, puis on me dit, si tu sais quoi de l'injection, je fais, Là, ils vont dire, hey, tu devrais savoir ça, tu es informaticien. Mais si je serais professeur informaticien, là, il dirait, là, vraiment, tu es un prof, puis tu ne sais pas ça. Qu'est-ce que tu enseignes, coudonc, à tes élèves? Bien, c'est un petit peu la même affaire ici. On a le docteur en Israël qui devrait savoir des choses, puis ne les sait pas. Et donc, c'est une personne qui est avancée dans le judaïsme. Elle croit aux Écritures juives, elle enseigne les Écritures juives, puis elle enseigne d'autres personnes à l'enseigner. C'est un grand rabbin. Okay? Et il devrait savoir que l'Esprit serait répandu à un certain moment dans l'histoire, là, dans la prophétie, là, il devrait savoir que le Saint-Esprit va être répandu, puis que les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Nicodème, dans le passage, on s'aperçoit que Nicodème aussi, dans l'Évangile de Jean, c'est le seul Évangile qui parle de Nicodème. On voit que ce ne sont pas tous les pharisiens qui étaient des adversaires de Jésus. Par exemple, Nicodème, lui, il s'est tenu pour que Jésus ait le droit d'être entendu avant de faire sa défense. C'est qu'on n'accuse pas un homme avant de l'avoir accusé. C'est lui qui va demander à avoir un ensevelissement correct pour lui, parce que dans le fond, un crucifié, c'était la fosse commune, là. Je veux dire, lui, il est allé pour chercher le corps. Dans Actes, on voit Gamaliel qui prenait soin des chrétiens en disant, regardez, est-ce qu'on peut accuser. Attention, là, vous êtes en train d'attaquer des chrétiens, puis quand on attaque un chrétien, bien, on peut peut-être attaquer son créateur. C'est ça qui est touché un peu quand on attaque des chrétiens, c'est que. Puis Gamaliel a dit, hey, si on lutte contre des chrétiens, est-ce qu'on n'est pas en train de lutter contre Dieu? Fait que, tu vois que dans les pharisiens, il y avait des gens qui n'étaient pas contre, qui étaient des hommes pieux, qui cherchaient à connaître Dieu, et lui semble en faire partie. Par contre, on ne voit pas Nicodème jamais recevoir le don de la vie éternelle. Mais on voit un grand respect pour la personne de Jésus. J'ai dit tout à l'heure qu'il était chef des Juifs, j'ai dit qu'il était pharisien, puis il était un grand docteur en Israël. Donc, l'expression quand Jésus dit tu es le docteur en Israël, c'est enseignant avec un grand E. Okay? Donc, c'est un formateur de d'autres rabbins. Il a au moins 50 ans. Et il est aussi, le texte dit qu'il est chef des Juifs. Et il siège sur un tribunal qui s'appelle le Sanhédrin, qui est composé de 70 chefs, puis un grand chef qui se trouve être, ça fait 71, un conseil juif. Depuis 6 ans après Jésus-Christ, les Juifs ont leur propre tribunal pour juger de leurs propres affaires, sauf pour la peine de mort. Ouais, puis dans le fond, lui, il est pharisien. Il vient de nuit. Dans Jean, la nuit est comparée à l'incrédulité ou la méchanceté. Un exemple, il dit la lumière est venue dans le monde, dans Jean 5, mais les ténèbres ont préféré leurs œuvres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, et que ne se sont pas approchés. Donc, les ténèbres sont comparées comme de la méchanceté ou de l'incrédulité aussi, des gens qui restent dans les ténèbres. Les seuls deux personnages qui font des actions la nuit, c'est Judas et Nicodème. Judas qui va aller le trahir de nuit, puis Nicodème qui vient le voir de nuit. Donc, ça peut refléter, je ne veux pas faire trop de bruit, je ne veux pas que le reste du Sanhédrin sache que je suis ici. Donc, c'est intéressant. Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. Remarquez, nous savons. Le nous et le vous est utilisé souvent dans le passage et ça laisse croire que Nicodème il est venu avec ses disciples. Puis Jésus était aussi avec ses disciples parce qu'il va dire au verset 11 et 12, nous témoignons de ce que nous avons vu, vous ne nous écoutez pas. Il y a le nous et le vous, là. Fait qu'il semble y avoir plus que Nicodème, mais Nicodème puis ses disciples, puis Jésus aussi qui est en train de répondre avec ses disciples. Le texte commence avec une salutation, Maître. On sait que tu es un docteur envoyé par Dieu parce qu'il n'y a pas personne qui peut faire les choses que tu fais. Donc, c'est une coutume chez les Juifs d'arriver, un peu comme quand tu arrives en visite, tu amènes un cadeau, là. Ben, nous autres, ce qu'on fait, c'est les Juifs, qu'est-ce qu'on faisait? On donnait un éloge. Bon Maître, que faut-il faire pour recevoir la vie éternelle? Vous voyez ça partout dans les. Regardez comment les gens approchent le Seigneur. Ils disent souvent une parole d'éloge ou. Pour reconnaître, tu sais, pour être reconnaissant. Puis il lui dit être hey, un maître envoyé par Dieu, mais il dit pas être hey, Dieu fait homme. C'est sûr que Nicodème, il est pas capable de comprendre là, ce que nous, on comprend, là, parce qu'on vient de lire Jean 1, puis Jean 2, puis tout. Fait qu'il le reconnaît comme un docteur envoyé par Dieu. Mais le nous, nous savons que tu es un docteur envoyé par Dieu, ça peut aussi signifier qu'il est envoyé par le Sanhédrin. Puis il parle aussi au nom de tout un groupe de personnes qui ont été surpris par les tables qui ont été renversées, mais aussi les autres miracles qu'il fait là, ces derniers jours. Au verset 3, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, ici, c'est intéressant. Jésus. Hey, t'es un bon maître, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu l'envoie. Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Parce que ce n'est pas une réponse à ce que Nicodème a demandé, mais c'est une réponse à son besoin. Puis ici, dans le fond, nous savons, hein, nous savons que la réponse de Jésus, c'est en vérité, puis quand il dit ça, c'est pas j'ai une opinion, ça se peut, peut-être, c'est vraiment une déclaration, un fait incontournable, c'est une vérité absolue, c'est en vérité, amen, amen dans l'original, c'est je te le certifie, c'est comme ça, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Et dans la discussion, on va s'apercevoir qu'il ne sait pas ce qu'il devrait savoir. Puis le plus grand obstacle à une personne pour recevoir la vie éternelle, c'est ceci. Puis c'est le fun que ce soit la première histoire dans Jean, c'est la prétention. Prétendre savoir, croire et avoir ce que nous n'avons, ne savons pas, possédons pas. OK? Fait que la prétention, c'est penser, savoir, croire et avoir ce que nous n'avons pas, nous savons pas, ne croyons pas. Donc, depuis le jardin d'Éden, on veut pas être tout nu devant le Dieu. Fait qu'on veut prouver, puis même quand quelqu'un nous parlerait de la vie éternelle, mettons qu'on ne l'a pas, on essaierait de démontrer qu'on l'a. Et une des choses qu'on va faire souvent, c'est qu'on va se cacher derrière nos bonnes œuvres, une vie rangée, pas faire de mal. Mais l'homme ne veut pas paraître nu devant son Créateur, fait qu'il va essayer de paraître vêtu. Et c'est pour ça qu'en arrivant en disant nous savons, tu sais, moi, je suis un enseignant, j'en sais des choses, puis je sais que, dans le fond, quelqu'un qui vient de la part de Dieu, ça, c'est comme l'autre qui vient, puis il va voir Jésus, puis il dit hey, bon maître, que faut-il que je fasse? Que c'est bon? Pourquoi tu m'appelles bon? Parce que moi, je suis bon, toi, tu es juste un petit peu après. Fait qu'il y a cette idée, l'homme veut paraître dans une certaine bonté devant Dieu et prétendre savoir, prétendre croire ou avoir ce qu'il n'a pas encore. Et ça, c'est le grand piège de l'enfer. C'est là que c'est ce qui va amener le plus de gens en enfer. Parce que la personne pensait qu'elle était habillée, mais était nue. Parce qu'elle n'a pas été revêtue. Hein? On a plusieurs paraboles là, de des gens qui viennent aux noces, puis qui ne sont pas vêtus ou sont mal vêtus, ils n'ont pas revêtu l'habit de noces. Même dans l'Apocalypse, ça nous parle. Jésus écrit à l'Église, puis il dit, parce que tu crois que tu vois, parce que tu crois que tu es habillé, que tu sais que tu es bien, que tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Donc, c'est le grand piège de l'enfer encore et surtout aujourd'hui, en 2022. Donc, qu'est-ce qu'il veut lui offrir? Il dit, hey, Jésus lui répond, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Voir le royaume de Dieu en Israël, c'était quoi? Ben, si un juif croyait que Dieu allait ressusciter les hommes un jour, puis qu'on allait, en tant que citoyen, faire partie de ce nouveau royaume-là. Donc, pour un juif, c'était clair qu'il y avait la résurrection qui était attachée à ça, puis qu'on allait, bien sûr, on attendait le Messie, puis le Messie, ben, quand il viendrait, ben, il serait roi. Puis l'idée que Dieu est roi, c'est très clair chez les juifs. Dans Ésaïe 9, 5, je ne l'ai pas. Ésaïe 9, 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voici ce que le zèle de l'Éternel des armées fera. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend un Messie qui va être le prince de paix, Dieu éternel, Dieu puissant, le Messie. Ça ressemble à la personne de Jésus. Encore une fois, si on était juif au premier siècle, je vous dirais que chacun d'entre nous avons une place au ciel. Parce qu'il y avait un dicton qui disait « Tous les juifs auront une place dans le royaume à venir. » Alors, Jésus, il répond « Non, non, nul ne peut voir le royaume s'il ne naît de nouveau. » La phrase « naître de nouveau » peut être comprise dans un autre sens. Ça peut être « naître d'en haut » aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement « de nouveau », mais « d'en haut ». Par contre, Nicodème l'a compris par « de nouveau ». Puis, il s'est posé la question, « Coudon, faut-tu que je repasse dans le ventre de ma mère, puis que je revienne? » Donc, regardez, là, c'est Nicodème qui amène le sujet de l'accouchement. Il dit, « Faut-tu que j'accouche du ventre de ma mère? » Puis, on a fait une étude ensemble, fait que je ne vais pas trop aller trop loin dans ça, parce qu'on a passé un mercredi au complet à étudier toutes les raisons pourquoi ce n'est pas naissance d'une femme, naître d'eau et naître d'esprit, naissance de Dieu, mais c'est la seule et même chose, naître d'eau et d'esprit, c'est une seule et même chose. Jésus reprend avec un thème qui est le thème de l'accouchement. Donc, il dit, faut-tu que j'accouche encore de ma mère? Non, il faut que tu accouches de Dieu. En gros, là, c'est ce que ça veut dire. Puis il va lui dire, Jésus répondit, en vérité, si je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, naître d'eau et d'esprit, c'est une explication du verset qui a été dit juste avant, naître d'en haut. Donc, naître d'en haut, ce n'est pas naître de femme et naître de Dieu, c'est naître d'en haut pour les deux. Donc, naître d'eau et d'esprit, c'est la même et unique chose. Avant, j'ai déjà enseigné que pour aller au ciel, ça prenait deux conditions. Être né, naître d'eau. Tu sais, t'as passé par la glissade d'eau quand ta mère t'a eu. Puis, t'es né de l'esprit. Donc, tu as les deux conditions. Les deux qui vont au ciel, ils ont ces deux conditions-là, mais les règles du grec disent que c'est la seule et même chose. On appelle ça un endiadis en grec, que les deux mots sont liés ensemble comme expliquant, parlant de la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ah oui, puis ça ici, dans le fond, beaucoup de gens vont dire que naître d'eau, c'est d'avoir passé par les eaux du baptême. Puis on va aller voir un enfant se faire baptiser, puis qu'est-ce qu'on va dire? Ou même à son décès, on va entendre, cette personne a été baptisée dans la famille des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on on, c'est pourquoi est-ce qu'on, à cause de passages comme celui-ci, qui dit qu'ils sont nés d'eau. Hein? Donc, ce n'est pas le baptême, puis ce n'est pas naître de sa mère, c'est de naître d'en haut. L'eau dans la Bible est comparée souvent à le Saint-Esprit est associé à l'eau. Et dans Jean, deux fois, et Jésus va dire, celui qui croit en moi, il va devenir une source d'eau de vie. Hein? Il va dire à la femme samaritaine, tu sais, que si elle croit, elle va devenir une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Puis là, il y a des commentaires dans l'Évangile de Jean. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, le Saint-Esprit, puis l'eau, ça fait bon ménage. Ça, c'est une belle... Tu sais, enlève l'eau, il n'y a pas de vie sur terre. Tu sais. Donc, mais on ne va pas plus loin pour ça. Sinon, de faire un contraste entre celui qui est né de la femme et celui qui est né de l'esprit, et c'est vraiment intéressant ici, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Étonne-toi pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il y a eu un changement, comme une brise qui flatte ma joue, qui transporte avec elle des odeurs. Si je suis proche d'un champ, mais tu sais, des fois, c'est des fleurs. Donc, le vent, c'est un changement, là, ça ne veut pas dire que c'est toujours bon, là, mais il y a quelque chose qui a changé. Je le sens, mais je ne le vois pas. Puis après qu'il est passé sur ma joue, je ne sais pas où ce qui est rendu. Puis d'ailleurs, on parlait de l'eau. L'eau, c'est storé où, ça? Où c'est que sont les réserves? Pourquoi les rivières continuent du temps? Bien, le vent, lui. Le vent, il est storé où? Il est placé où? Et dans la Bible, on voit plusieurs passages qui démontrent que le vent, il suscite l'interrogation comme quelque chose de mystérieux. D'où il arrive, puis où il s'en va? Puis on est un mystère, nous, qui avons reçu le don de la vie éternelle. J'avais un passage dans 1 Jean, il dit « Ce que nous sommes enfants de Dieu et ce que nous sommes n'a pas été encore manifesté, mais nous savons que lorsque nous le verrons, nous serons semblables à qui il est. » Mais il dit « Le monde ne nous connaît pas. » On ne sait pas, on sait que... Ah, Jean-Sébastien, là, on sait que lui, là, à un moment donné, il a décidé qu'il arrêtait de prendre la drogue, il arrêtait d'écœurer les plus faibles que lui pour s'élever. En tout cas, ceux qui intimidaient doivent être contents de ce changement-là. On ne sait pas qu'est-ce qui a changé totalement dans Jean-Sébastien, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose. Il a changé, puis il est rendu plate. Ben, moi et mes chums, c'est ça qu'ils m'ont dit. Moi, j'allais dans les bars avec eux autres, comme je vous disais, puis à un moment donné, c'est comme si on dit « Tente pas de changer d'amis. » Je n'ai pas voulu les rejeter nécessairement. Donc, c'est un changement, il n'est pas toujours goûté comme positivement par les gens, mais il y a un changement. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas tout à fait c'est quoi. Et Jésus est en train de dire à Nicodème, quand quelqu'un reçoit le don de la vie éternelle, il y a un changement qui se passe, puis en plus, tu deviens un messager du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'envoyer à quelque part pour faire son œuvre, puis c'est comme ça. Mais dans l'Ancien Testament, on parle du vent, et le mot vent en hébreu, c'est « ruah ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « esprit » ou « souffle ». Le premier à utiliser ce mot-là dans l'Ancien Testament, c'est Genèse 1-2. Au-dessus des eaux, qu'est-ce qui se passait? La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et le « ruah » de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est quoi? C'est le souffle. L'esprit, c'est le souffle. C'est le vent. Mais c'est la même traduction. Le premier passage qui parle de Dieu comme étant une mer couveuse. Le mot pour se mouver au-dessus des eaux, c'est une poule qui couve ses petits. Et donc, l'Esprit de Dieu était là. Il y avait juste de l'eau, puis il n'avait pas encore amené de l'eau dans son grenier ou à quelque part, là, puis il n'a pas amené un vent pour que la terre encore passe, qu'il y avait l'Esprit qui couvait. Et qu'est-ce qu'il couvre? Qu'est-ce que le Saint-Esprit couvait? Il couvait l'eau. Ah, l'eau, naître d'eau. OK, en tout cas, il faut que j'aille plus loin. Il couvait la vie. Puis après, Dieu a dit que les eaux donnent, que la terre qui est en dessous de l'eau donne et chacun produisit des animaux, des ci, des ça. OK, des plantes et toutes sortes de choses. Donc, la poule couveuse ou l'Esprit Saint couvait littéralement les eaux pour qu'il y ait une nouvelle vie qui jaillisse. Et là, le roi, ceux qui sont nés du roi ou de l'esprit sont aussi des rois ou des vents. Intéressant. Le souffle de Dieu, c'est comment est-ce que l'homme est devenu une âme vivante? Comment? Par le souffle de Dieu. Dieu qui souffle, puis l'homme devient un souffle, ou un néphesh, qui veut dire aussi un souffle, un respire. Donc, c'est intéressant. Regardez ce que Job dit. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononcent rien d'injuste et ma langue ne dira rien de faux. Job, il disait que son souffle qu'il avait dans les narines, c'était le souffle même de Dieu. Et donc, c'est intéressant. Ça veut dire que le souffle de Dieu, c'est ce qui donne la vie. Ce n'est pas pour rien qu'il vient de parler de nouvelle naissance puis qu'il dit que ceux qui sont nés de l'esprit sont aussi des souffles ou des vivants, des vents, je m'excuse. Job respire la vie biologique de Dieu. Le croyant-croyant respire la vie du Saint-Esprit qui a soufflé sur son âme mortelle, sur son corps mortel, puis qui est devenu, lui, temple du Saint-Esprit. Il est devenu, lui, quelqu'un qui a la vie nouvelle. Il y a un souffle de l'Esprit-Saint qui est venu parce que la personne a cru au Seigneur Jésus, puis elle est devenue vivante spirituellement. Nicodème ne l'a pas vécu. Écoutez, dans Job, quand que Dieu il dit, t'étais où, petit Cassaélis, quand ces choses-là se sont passées? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Ça, c'est avant qu'on savait que la lumière se divisait en faisceaux. Notre science n'était pas assez avancée. À ce temps, on le sait. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Ou encore, dans Ecclésiaste, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Tu sais, il le dit, le vent il vient, on ne sait pas où il va. Jésus cite l'Ancien Testament et c'est fort probable qu'il réfère à ceci. Comme tu ne sais pas de quel chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, de quoi qu'on vient de parler? De quoi est-ce que Nicodème vient de parler? De la femme enceinte qui l'a accouchée. Il disait, non, ce n'est pas ta mère, mais il y a quelque chose d'encore plus mystérieux, c'est que Dieu va te faire naître de nouveau par le Saint-Esprit. Donc, comme tu ne sais pas où ce que le vent, il prend comme chemin, ni comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre que Dieu fait en tout. Nicodème, tu ne sais pas ces choses. C'est normal, à quelque part, que tu ne saches pas. Puis, remarquez, Jésus ne lui a pas encore reproché dans notre texte, il ne lui a pas reproché de ne pas savoir, parce que la manière qu'on recevrait le Saint-Esprit, ça n'avait jamais été spécifié qu'on naîtrait de Dieu. C'est nouveau, ça, c'est fantastique. On ne sait pas comment Dieu est fait, mais Jean-Sébastien, en tout cas, il a changé sur tel aspect, je ne sais pas trop comment ça a commencé, qu'est-ce qui a amorcé ça. Mais nous le savons. Dieu, le Saint-Esprit, est venu habiter en nous, il a soufflé sa vie en nous, nous avons reçu une nouvelle vie, la vie non créée de Dieu, et on a commencé un processus de sanctification où on est en train de devenir un petit peu plus comme lui. Quand on lit l'Évangile de Jean, ça fait deux fois maintenant qu'on lit « naître de Dieu ». Dans le chapitre 1, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme ou de la chair, puis né de Dieu, c'est semence, c'est sperme, ça a vraiment l'idée d'être quand l'homme dépose sa semence dans la femme. Tandis qu'au chapitre 3, que celui qui voit le royaume de Dieu, il est né de nouveau, c'est le mot qui est utilisé pour naître d'une femme. Ça a plus rapport à aller après 9 mois quand que t'es conçu, quand que tu sors de la maman. C'est intéressant, ça fait deux fois. Ça veut dire que si tu lis l'Évangile et tu es rendu au chapitre 3, ça fait déjà deux fois que tu te fais dire que tu peux devenir un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, naître du Saint-Esprit. Deux fois. Et normalement, si tu es un lecteur sérieux, tu t'arrêtes et tu te dis, est-ce que moi, je suis né de nouveau? Est-ce que je sais c'est quoi cette expérience-là? C'est nouveau dans mon vocabulaire. Pour Nicodème, c'est nouveau aussi, même si lui, c'est un super enseignant. C'est nouveau pour lui dans son vocabulaire, mais normalement, c'est là que le piège de la prétention nous guette. De penser savoir et penser croire qu'on l'a reçu, puis aller au chapitre 4, puis comme continuer à tourner. Mais normalement, on devrait se poser la question, est-ce que je savais qu'il fallait naître de nouveau? Est-ce que j'ai cru pour naître de nouveau? Est-ce que j'ai obtenu? Est-ce que je suis né de nouveau? Nicodème lui répondit, mais comment que ces choses-là se peuvent se faire au verset 10, et Jésus lui répondit, « Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Puis en passant, on ne parle pas de la nouvelle naissance. Non, ils viennent de parler du vent, ils viennent de parler, tu sais, ils viennent de parler du vent. Puis une des choses qui aurait dû se rappeler, et je vais les passer vite, c'est il y a plusieurs passages, OK? Puis l'idée, là, de ces passages-là, c'est simplement pour vous dire que ce n'est pas une chose nouvelle pour les Juifs que de savoir qu'on aurait un nouveau cœur ou qu'on recevrait un nouvel esprit, l'esprit en nous. Hein, je vous donnerai un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps un cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Tu vois que le nouveau cœur allait amener un désir d'obéir à ce Dieu-là, un désir de marcher dans ses voies. Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est dit presque pareil. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Hein? Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. C'est quasiment une copie de l'autre passage. Ésaïe 44, 3, je répandrai des eaux sur le sol altéré, hein, de l'eau, encore une fois, l'eau qui donne la vie, et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Nicodème était censé savoir qu'à un certain moment, Dieu répandrait son esprit sur sa race. Verset 59 de 59, 21 de Ésaïe. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Mon esprit repose sur toi. Donc, il y a cette idée de venir puis de demeurer, pas juste venir comme quand il y avait quelqu'un qui avait un don, qui était un roi, un prophète ou un juge. Pas juste recevoir le Saint-Esprit pour faire une action particulière, mais vraiment qu'il va venir, puis il va habiter, puis ça va produire un changement de cœur, puis ça, les paroles ne vont pas sortir de toi, ils vont rester à l'intérieur. Donc, il y a cette idée de garder la parole, puis de devenir un croyant. Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous connaissons. Je te rappelle tantôt, quand il a commencé avec Nicodème, la première chose que Nicodème a dit, c'est quoi? Nous savons. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Nous savons. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est comme un peu comme dans les films de guerre de danse, là, tu sais, un groupe qui fait ses danses, puis après ça, c'est l'autre qui fait ses danses. Là, tu sais. Bien, c'est comme si Jésus, avec ses disciples, disait, hey, nous autres aussi, on sait quelque chose. Puis nous aussi, on a vu quelque chose. C'est comme une connaissance qui vient en confronter une autre, si on peut dire. Puis c'est là qu'on voit que Nicodème ne parle plus, il est passé de maître à élève. Il s'assit, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, puis il a besoin de se laisser enseigner. Nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Jésus, c'est la première fois qu'il utilise le mot rendre témoignage, mais il va avoir une série de places après où Jésus va rendre témoignage. À date, quand on lit l'Évangile de Jean, qui on voit 4 ou 5 fois dans le chapitre 1, c'est écrit: Jean n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à celui qui est la lumière. C'est celui dont j'ai témoigné, celui qui est avant moi, est après moi, est avant moi. T'sais. On voit que Jean-Baptiste était venu pour rendre témoignage de Jésus, mais Jésus il est venu rendre témoignage de son Père. Et lui était dans les cieux. Puis il a vu qu'est-ce qu'il y avait dans les cieux, puis il est venu sur la terre, puis il est venu nous rendre témoignage, et donc il vient nous dire des choses qu'on ne connaît pas. Je peux aller voir Jésus dire, hey, Seigneur, on sait que, tu sais, mais je ne peux pas savoir ce que toi tu as vu en haut, par exemple. Et donc, Jean est monté comme j'aime le répéter, comme un récit de témoignage. Il y a 7 histoires. Où tu vois 7 rencontres avec Jésus, ça c'est la première des 7. On avait vu à Pâques Pilate. En passant, je vais faire un pamphlet pour l'évangélisation de Verryville avec Nicodème. Donc c'était le dernier, c'était Pilate. Le premier, c'est Nicodème. Parce que je trouve que vous me le direz, mais je trouve que c'est un texte excellent pour quelqu'un qui est grandi au Québec. Jésus rend témoignage, puis il va dire à Pilate, Il va dire, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est vraiment intéressant parce que Jésus, il dit, on est venu rendre témoignage à la vérité, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Comment vous me croirez quand je vais vous parler des choses d'en haut, si quand je vous parle des choses d'en bas, vous ne me croyez pas? Il prend un argument qu'on appelle le ad minori ad maius, qui veut dire du plus petit au plus grand. Tu sais, fidèle à une petite chose, fidèle à une grande. Mais là, il y a cette idée-là ici. Là, je te parle juste de naître de nouveau. Là. Ça, c'est quelque chose qui t'appartient à toi. Là. Tu peux vivre ça sur la terre. Si tu ne peux pas passer par naître de nouveau, tu ne peux pas comprendre les choses célestes non plus. Paul va dire que lorsqu'on a cru au Seigneur, le voile a été enlevé. Hein? Nicodème, il ne peut pas croire encore à cette nouvelle naissance-là. Hey, je l'avais juste en paraphrase. Là. Qu'est-ce que ça voulait dire, là, la nouvelle naissance? Là? C'est ça ici. L'homme ne naît pas par un accouchement des eaux utérines de sa mère, mais par les eaux utérines d'en haut. Ça fait drôle, mais c'est quand même... Nicodème naît de dire, ben, comment je peux... Si je, faut que je passe par le ventre de ma mère, donc c'est vraiment, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Donc, si Nicodème n'est pas de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu, donc il ne pourra pas comprendre ce qu'il y a de l'autre côté, il ne verra rien de ce qu'il y a de l'autre côté. Jésus, il vient du ciel, il parle des choses du ciel. Nicodème, il est un homme de la terre, il vient de sa mère, puis lui, il n'a jamais été en haut. Fait que là, Jésus va dire au verset 13, « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Je vais juste le répéter, je ne sais pas si vous l'avez, parce que le texte est assez particulier. « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Ça pète les neurones. Ce que Jésus vient de dire là, ça pète les neurones parce que Jésus, il est avec Nicodème puis il est dans le ciel. Au même moment où il parle avec Nicodème, il est aussi dans le ciel parce qu'il s'est abaissé à devenir un homme, mais il demeure le Dieu tout-puissant, tout-connaissant et tout-présent. Il est assis dans le ciel, mais il est avec Nicodème aussi, en tout cas. Jean, il décrit plusieurs personnes qui viennent des cieux dans l'Évangile de Jean. Il a dit à Nathaniel quoi? Vous verrez désormais quoi sur Nathaniel? Des anges, c'est ça? Des anges qui monteraient et qui descendraient sur le Fils de l'homme. Donc, il a dit qu'il y a des anges qui descendraient puis qui monteraient. Donc, il y a des anges. Il y a aussi au baptême de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste, il dit, j'ai vu, c'est quoi j'ai vu? J'ai vu l'Esprit descendre sur lui. Donc, le Saint-Esprit descend des cieux, les anges descendent des cieux. Puis, il parle de la manne. Il dit qu'il leur a donné du pain du ciel à manger, donc du pain du ciel. Donc, il y a trois choses ou trois personnes qui descendent des cieux. Puis, qui montent, eh bien, c'est les anges. Les anges remontent. Qu'est-ce qui remonte aussi? Jésus, depuis qu'il est là, il est déjà monté. Parce qu'il dit, regardez ceci, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu. Bien, pour pouvoir monter, il a fallu qu'il descende. Et depuis qu'il s'est incarné, il est remonté. Donc, le texte dit aussi qu'il va ressusciter et qu'il va monter. On lit ça plus tard dans l'Évangile, dans 27. Il dit qu'il faut qu'il rejoigne son Père. Pendant qu'il est en train de lui parler, il lui dit qu'il est aussi dans les cieux. Donc, il y a quelque chose à donner à Nicodème, que Nicodème, lui, est un gars de la terre. Il n'a jamais. Puis dans la Bible, pourtant, on devrait se poser la question, y a-t-il des hommes qui sont montés dans les cieux sans mourir? Qui? Enoch, puis et le maître d'Élysée, Élie, dans un chariot de feu. D'autres personnes? Il y en a juste deux à ce qu'on sache, mais ils ne sont pas et montés et redescendus. Et Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il n'y en a pas un qui a été monté puis qui est redescendu. Puis on va voir qu'il y avait une expression chez les Juifs de « on ne sait pas, personne n'est monté puis qui est redescendu pour venir nous dire ». Puis on a encore ça aussi au Québec. La résurrection, la vie éternelle. Il n'y a personne qui est venu, qui est mort, qui est monté, qui est revenu. Hein? On n'a pas ça, cette expression-là. Mais ça existait chez les Juifs. On va regarder quelques passages. Ça va être vraiment cocasse. Mais il y a eu Moïse, Ésaïe et Ézéchiel qui ont vu le Seigneur dans son temple céleste, dans sa gloire. Moïse, le plus haut qui est monté, c'est la montagne de Sinaï où, avec les 70, tout est devenu comme le ciel. Mais il n'est pas monté au ciel. Puis les Juifs disaient, Moïse est monté au ciel, donc c'est lui qu'on écoute. Mais il n'est pas monté au ciel, il a vu le ciel. Et puis dans l'hébreu, c'est écrit, prenez garde de ne pas écouter celui qui nous parle des cieux. Et celui qui est monté et qui est descendu et qui est remonté, c'est le Seigneur Jésus. Puis lui, il nous a dit des choses merveilleuses à entendre, dont la bonne nouvelle. Donc le seul qui est allé et qui est revenu pour nous en parler, c'est Jésus. Énoch, pas encore. Élie, pas encore. Peut-être. C'est peut-être les deux témoins dans l'Apocalypse. Peut-être. Je sais pas. Il y avait une expression, et on va le voir ici dans ces passages-là. Je retourne où ce qu'on était. J'ai souvent parlé sur Nicodème, fait que j'ai décidé de vous amener à des endroits que je ne vous amenais pas d'habitude. Regarde ici. Quand quelque chose est un peu mystérieux, qui n'est pas atteignable, on dit, ah, personne qui est allé le chercher pour nous le ramener, tu sais, ou qui est allé au ciel. Regardez ici, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher et nous le fera entendre. Ici, c'est implicite, tu sais, il va aller le chercher, il va nous le faire entendre. Faut il faut qu'il revienne pour nous le faire entendre. Là. Donc, c'est implicite. Pour qu'on le mette en pratique. Dieu dit, ah non, c'est plus simple que ça. Le commandement, il est dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'envoyer quelqu'un au ciel pour venir le chercher. C'est comme si c'était un mystère, quelque chose de difficile à comprendre. Proverbe 30, verset 3 à 5. L'auteur dit, je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Quand tu vois des phrases comme ça, puis tu vois dans le nouveau, tu cherches ces phrases-là, tu les trouves dans l'ancien. Bonne chance que Jésus ou l'auteur du Nouveau Testament est en train de faire référence à ce qui a été dit précédemment. C'est toujours intéressant d'aller faire ces recherches-là. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli les vents? On n'en parlait pas du vent tantôt. Qui a recueilli les vents dans sa main? Qui a serré les eaux dans son vêtement pour que l'eau puis la terre paraissent? Tu sais, oh, mets ça dans mon vêtement. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Donc, si on parle d'un personnage qui a un fils puis qui est capable de mettre l'eau dans son vêtement, c'est qui est monté puis qui est descendu, sinon Dieu ou son fils, Jésus-Christ? Donc, si ça pointe à la personne même du Seigneur Jésus. Moïse est monté sur la montagne. Jésus est monté jusque dans les cieux. Puis depuis le chapitre 1, on voit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi, la seule affaire qu'elle peut faire, c'est de condamner. Mais lui, Jésus, il ne va pas juste te condamner, il va te sauver, il va te donner la vie éternelle, puis il va te donner une grâce qui est beaucoup plus excellente que la grâce de Moïse. Deux derniers passages, verset 14. Jésus finit avec la vérité de qu'est-ce qui va rendre la nouvelle naissance possible. Il va dire, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on connaît cette histoire-là. C'est dans Nombre 21, pour votre lecture personnelle, au verset 8 et 9. Il y avait un jugement qui était tombé sur Israël. Puis, les serpents les mordillaient et ils mouraient de ça. À moins qu'il regarde à un serpent de métal fondu mis sur une perche, tu te faisais mordre, tu allais chercher ce poteau-là, tu le regardais, tu avais la vie sauve. La grâce de Moïse, c'est une grâce que tu ne meurs pas tout de suite, tu sais, à cause de ce chose-là, tu sais, ce poteau-là. Mais la grâce de Jésus-Christ, ce n'est pas que tu ne vas pas mourir tout de suite, c'est que tu vas vivre éternellement. Puis il va dire, comme le serpent a été élevé dans le désert, puis que ceux qui l'ont vu ne sont pas morts, ainsi ceux qui vont croire, puis là, il dit pas voir, tandis que là, il disait voir pour voir le serpent d'airain, mais là, il dit pas voir, il dit croire. Donc là, il va dire qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et le terme élevé, c'est un terme d'élevé en gloire, mais dans Jean, c'est toujours utilisé pour sa crucifixion, jamais pour son élévation ou sa résurrection quand il monte l'élévation dans les cieux, son ascension. C'est toujours une position de gloire, c'est son trône. Jésus, la croix, c'est son trône. Il va être élevé sur la croix. Quand Jean il dit, quand Pierre dit à Jean, si lui il reste jusqu'à temps que tu. Qu'est-ce qui va arriver à moi, là? Tu sais, je veux dire, parce que Jésus a dit à Pierre, toi, ils vont t'attacher les mains, ils vont t'amener à un endroit où tu ne voudras pas. Puis là, Pierre, il dit, puis lui, à Jean, il va arriver quoi à lui? Tu sais, ben, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, là, c'est bien beau. Et Jésus a dit, il expliqua à Pierre de quelle mort il, quoi? Il glorifierait Dieu. Parce que l'évangile de Jean, la croix, c'est une élévation, c'est une gloire, c'est la gloire là, de Dieu manifestée par une bonté de Jésus qui est prêt à mourir pour nous, pour être puni, puis pour être la solution à « Seigneur, j'ai un jugement sur ma vie. » Ça, les gens n'aiment pas ça, entendre le mot jugement. Hein? Mais c'est encore l'évangile en 2022. Puis ça ne fait pas plaisir d'entendre qu'il y a un jugement sur notre tête. Mais c'est l'Évangile. Puis on regarde à la croix et on dit, ce jugement que je méritais est tombé sur lui. Et parce que je regarde à lui, ou plutôt je crois à lui, comme le serpent d'airain, les gens regardaient, étaient sauvés du jugement, bien moi j'ai regardé à la croix puis j'ai cru que Jésus a fait cela pour moi. Et là, le verset 15 embarque. C'est le verset 16 où Jésus va continuer, c'est Jean qui va continuer. Donc, c'est une grâce qui est supérieure à celle de Moïse. Tu sais, même dans la noce de Cana, les vases de purification servaient encore juste à être, tu sais, corrects, tu sais, de ne pas être condamnables ou à, tu sais, obéir à la loi. Mais Jésus, lui, il remplace l'eau par du vin, puis lui, il offre un festin qui parle d'un festin à venir, une fête. On reçoit le pardon des péchés avec Jésus-Christ. Pas juste qu'on ne va pas mourir parce qu'on s'est fait mordre par un serpent, fait qu'on a encore quelques années à vivre. Mais on a la vie éternelle, parce qu'on a placé notre confiance en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Dans certaines religions ou certaines visions du monde, le salut ou la vie éternelle est réservé à un groupe d'élus ou d'un groupe sélect. Mais le passage dit quiconque croit à la vie éternelle. C'est vraiment super passage de l'Écriture. Puis là, on commence à voir le nul ne peut, quiconque. Puis si vous avez étudié avec nous les mercredis soirs, on a fait l'Évangile de Jean, mais on cherchait tous les quiconques, les nuls ne. Hein? Vous rappelez-vous de ça? Et là, on commence à voir que l'Évangile est pour tous, mais il y a des quiconques qui doivent sortir et dire, regarde, je peux-tu, moi, devenir un enfant de Dieu? Oui, Dieu te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Tu as juste besoin de le recevoir, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Comment je fais ça? Bien, reçois le témoignage de Jésus-Christ, puis pas juste qu'il a fait des miracles, mais qui est vraiment le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à la croix, etc. Et tu peux, Dieu te donne le pouvoir. On ne pouvait pas devenir un enfant de Dieu. Mais on lit à partir du moment où Dieu nous donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. On va arrêter l'enregistrement ici, puis je vais poser la question pour les quelques instants qui nous restent. On va arrêter l'enregistrement. Pourquoi est-ce que...